réplique « Où va le féminisme ?» avec Fabienne Brugère et Claude Habib. Depuis l'affaire Weinstein, ce mania hollywoodien qui pendant 30 ans a profité sans vergogne de sa position de pouvoir pour contraindre des actrices, débutantes ou confirmées, à avoir des rapports sexuels avec lui, et depuis le mouvement MeToo qui a amplifié le scandale, le combat féministe est à nouveau très présent sur la scène politique mondiale. Et il n'a pas fait relâche. Il ne s'est pas confiné pendant la pandémie que nous venons de vivre. Ce qui a fait tenir la société, c'est d'abord une bande de femmes, a déclaré Christiane Taubira. Dans un article publié sur le site AOC, Sandra Laugier, Patricia Molinier et Patricia Paperman ont affirmé que le comportement des officiels en costume cravate, à la fois sûr de leur autorité politique et scientifique et récusant toute contestation est parfaitement reconnaissable par les féministes, c'est celui du patriarcat. Ajoutant que les véritables experts étaient les infirmières en larmes, elles ont tiré de l'épisode une conclusion sans appel, la compétence a changé de camp. À l'appui de cette thèse, Claude Haskolovitch a cité dans l'une de ses récentes revues de presse un article du New York Times selon lequel les pays gouvernés par des femmes ont eu 5 fois moins de morts que les pays gouvernés par des hommes. À mes deux invités, Fabienne Brugère, qui publie « On ne naît pas femme, on le devient » et Claude Habib, auteur entre autres du consentement amoureux et de galanterie française, je demanderai pour commencer si elle partage cette lecture genrée de la catastrophe du Covid et si le féminisme dont elle témoigne est le leur. Fabienne Brugère.
Je crois que cette lecture genrée de la crise sanitaire est une lecture particulièrement importante parce qu'elle montre combien les femmes ont été présentes dans cette crise, en particulier autour de ce que l'on pourrait appeler de manière générique un prendre soin des autres. À comprendre, bien sûr, en un sens très large. Le prendre soin des autres, ce n'est pas seulement un sens médical, un sens curatif, mais c'est aussi tout ce qui correspond aux relations avec les autres, aux relations de subsistance qu'il faut assurer, tout ce qui renvoie à la figure du sujet de besoin, aux tâches d'approvisionnement, et donc on a là, de manière très concrète, tout un ensemble de professions, que ce soit les infirmières, que ce soit les auxiliaires de vie, que ce soit les caissières et bien d'autres. Et je crois que à travers ces textes, ce qui a pu se dégager, c'est une présence de ces femmes que l'on ne voit pas généralement dans la vie ordinaire, comme si tout d'un coup un effet de loupe avait permis d'apercevoir ce qui généralement est conçu comme étant minuscule et peu important. C'est-à-dire que tout ce qui est généralement considéré comme n'étant pas essentiel au fonctionnement de la société, on a bien vu tout d'un coup que c'était précisément particulièrement important. Ça, c'est le premier point, c'est le point de la visibilité de ces femmes généralement invisibles. Et je crois qu'à travers ça, c'est aussi dégager une certaine fierté, des femmes. Il ne faut pas oublier, on l'a vu à travers tous les entretiens que le milieu hospitalier a pu faire, que ce sont globalement des hommes qui sont morts du Covid, qui ont été soignés et qu'ils ont été soignés par des femmes. Et donc il y a eu, on peut avoir en tête cette image de ces femmes soignantes, y compris parmi les médecins en réanimation, qui globalement soignent des hommes. Donc ça, c'est un élément essentiel du féminisme aujourd'hui, finalement l'utilité revendiquée des femmes. Et puis à travers ces textes, il y a un deuxième élément, c'est bien sûr celui du retour à la notion de patriarcat, notion qu'on pensait un peu oubliée, un peu surannée. Ce retour du patriarcat, ce retour du terme, il est très fort. Et je crois qu'il signale quelque chose d'extrêmement important en ce début de XXIe siècle, c'est la persistance du patriarcat, ou si vous préférez, sa réorganisation. Et cette réorganisation du patriarcat, elle tient au fait que précisément le féminisme lui-même se réorganise, qu'il est d'une certaine manière de plus en plus présent, et que donc, eh bien précisément, il faut le combattre face à une révolution qui sera peut-être d'ailleurs la grande révolution du XXIe siècle, le féminisme. Eh bien, on organise des contre-feux, des contre-révolutions, et donc il y a bien aujourd'hui une contre-révolution que l'on peut nommer, à mon sens, une contre-révolution patriarcale.
Claude Habib.
Je prendrai pas ce terme. Je crois que le patriarcat, il a pris des coups dans l'aile en raison de l'idéal égalitaire de nos sociétés démocratiques, et que la hiérarchie, elle est tombée par terre. Là, je suis vraiment l'analyse de Marcel Gaucher. Elle a été ébranlée dans la société, puis dans le dernier bastion qui était la famille. Et à partir du moment où le pouvoir paternel devient l'autorité parentale, on peut dire que l'égalité a gagné, même s'il reste des séquelles. Mais vous voyez bien que ce triumvirat, là, Trump, Bolsonaro, Erdogan, il apparaît aux yeux du monde manifestement comme une réaction. C'est pas du tout une tendance nouvelle, c'est une espèce de combat d'arrière-garde. Et effectivement, Trump fait pâle figure devant Sana Marin, la merveilleuse première ministre de Finlande, qui est jeune, jolie et compétente, alors que lui, il est vieux, pas beau et incompétent. Donc, sur ces femmes qui ont réussi, d'abord, je ne pense pas que sur trois femmes, Angela Merkel, Jacinda Ardern et Sana Marin, on puisse faire vraiment une statistique. Mais moi, je suis ravie qu'elles aient réussi. Je suis ravie qu'elles aient prouvé leur compétence. Mais si c'est pour dire les hommes sont par nature incompétents, alors que depuis des milliers d'années, on nous a mis la tête sous l'eau en disant les femmes sont incapables de plaider, d'exercer la médecine, de conduire une voiture. Bon, si on refait le film à l'envers pour dire les hommes sont des incapables, là, vraiment, je me demande ce qu'on a appris. Et quand vous parlez de visibilité des femmes, oui, mais enfin, on a vu les livreurs, on a vu les manutentionnaires, on a vu ceux qui, dans les supermarchés, remplissent les rayons et trimballent les palettes. Donc, je crois qu'on a vu, soudain, les professions déconsidérées, parce que justement, elles ne peuvent pas être en télétravail, parce qu'elles ne sont pas dans le monde électronique, et il y avait des femmes et il y avait des hommes. Voilà. Mais j'étais très heureuse, Fabienne Brugère, que vous parliez du fait que les morts étaient massivement masculins. Oui, bien sûr, puisque à 60% en France, à 73% en Italie, le Covid a touché des hommes. En France, sur environ 30 000, ça fait quand même 5 à 6 000 morts de plus. Or, à part vous, aujourd'hui, j'ai jamais entendu personne en parler. J'ai entendu beaucoup de gens dire « il faut que les jeunes fassent un effort pour les vieux », etc. Mais dire « c'est un drame », quand même, c'est deux fois plus que le 11 septembre, hein, 6 000 morts. Alors, c'est la faute à personne, c'est personne n'a visé ces hommes en particulier, mais enfin c'est quand même ça exigeait un mot de compassion. Or qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu les pauvres femmes vont être battues par les hommes parce qu'elles sont restées chez elles. C'est ça qui a été entendu.
J'aimerais bien revenir là-dessus parce qu'il me semble que précisément ce n'est pas un hasard si personne n'a vraiment souligné le fait que la plupart des victimes, enfin qu'une majorité de victimes étaient des hommes, parce que précisément la vulnérabilité, elle est généralement associée dans beaucoup de sociétés aux femmes. Et donc, quand il s'agit précisément d'hommes, on a beaucoup plus de mal à les penser du côté de la maladie et de la vulnérabilité. Et donc là-dessus, je ferai aussi une lecture selon le genre. Et je dirais que c'est donc pas du tout innocent si personne ne parle du fait que les victimes ont été largement des hommes, parce que ça sort finalement des stéréotypes.
Et donc c'est important. Tout le monde sait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, Fabienne.
Bien sûr. Non, mais je parle spécifiquement de la crise, de cette crise sanitaire, et donc du fait que précisément on a mis très peu en avant le fait que les victimes, que les malades étaient largement des hommes. Et je trouve qu'il est important de pouvoir le mettre en avant aussi.
La compassion pour le vieil homme blanc.
J'interviendrai après.
La compassion pour le vieil homme blanc, elle n'est pas très développée. Moi, je pense que c'est pour ça. Il y a eu un article dans le Guardian pour dire oui, non, mais s'ils meurent plus, c'est parce qu'ils boivent plus, ils fument plus et c'est leur faute. Mais à part ça, j'ai rien vu. Donc, non, je crois qu'il y a un défaut de compassion à l'égard des hommes, et toutes les statistiques qui devraient nous poser des questions. Par exemple, le fait que les hommes se suicident et meurent de suicide, je sais pas, deux fois plus que les femmes. Enfin, c'est un chiffre tout à fait frappant. On l'entend pas trop, puisque les hommes sont des bourreaux et nous sommes des victimes.
Simplement, oui, je voudrais intervenir à mon tour, revenir sur ce qui a été dit, notamment dans le New York Times. Il est vrai que dans des pays dirigés par des femmes, les choses se sont bien passées, mais c'est dur d'en faire une généralité. Comme l'a écrit Jenny Bastier dans le Figaro, la Belgique, le pays se distinguant par le plus fort taux de mortalité par population, est dirigé par la libérale francophone Sophie Wilmès. Et puis, j'ajoute aussi que vous avez insisté, Fabienne Brugère, sur le rôle du soin, du care, comme on dit aujourd'hui. Prendre soin d'eux. Et il est vrai que l'Europe ne connaît plus la guerre depuis longtemps. Donc le care, dans la représentation que nous nous faisons de la morale, joue un rôle central. Cela devient la vertu suprême. C'est comme s'il n'y avait plus, justement, dans un monde sans guerre, de vertu masculine, que la vertu était au départ féminine. Et cela me pose un problème, et là je rejoindrai un peu Claude Abi, parce qu'il me semble que dans le féminisme originel, on se battait avant tout pour l'égalité, et ce que je vois venir dans cette révolution du 21e siècle dont vous parlez, Fabienne Brugère, c'est une revendication de supériorité. Voilà. La femme n'est pas l'égale de l'homme, il y a une supériorité morale et même politique des femmes sur les hommes. Est-ce que ça a un sens d'aller jusque-là, Fabienne Brugère?
Je crois que votre remarque est totalement pertinente. Moi, je ne pense pas qu'il faille effectivement aller dans le sens d'une essentialisation des questions de soins. De la même manière, je méfie toujours énormément des partages radicaux entre le masculin et le féminin. Je pense que les choses sont toujours beaucoup plus compliquées qu'il y a chez chacun. Précisément à la fois du masculin et du féminin, que chacun s'invente et qu'il y a toujours des écarts par rapport aux normes et que nous ne sommes pas de toute façon des stéréotypes. Donc là-dessus, que nous sommes des individus en chair et en os, c'est que nous avons en nous des singularités qui font que précisément, je crois qu'il est très difficile d'en rester à des grandes catégories. Ça, c'est le premier point. Le second point, il tient à ce que l'on peut dire du Caire. Le Caire, c'est un champ intellectuel et c'est un champ académique qui est en cours de, on pourrait dire, d'élaboration, et c'est ce qui est très intéressant en soi, mais il y a plusieurs courants. Et effectivement, il y a d'un côté un courant que je nommerais naturaliste, qui pose d'une certaine manière des vertus féminines et des vertus masculines, qui les naturalise et qui pose en ce sens-là des sentiments moraux qui seraient typiquement féminins. Il est bien évident que je ne me situe pas sur cette ligne. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est la question des activités de soins en tant que telle, la manière dont elle porte un versant médical, mais la manière aussi dont elle porte un versant relationnel, et donc des formes de soucis, de préoccupations des autres, de maintien des vies, de réparation des vies ou de développement des vies. Et là-dessus, on peut partir d'un certain nombre, disons, de constatations, à savoir que toutes ces tâches de maintien, de développement, de réparation des vies, dans beaucoup de sociétés, elles sont largement accomplies par des femmes, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient exclusivement accomplies par les femmes. Et de ce point de vue-là, mon point de départ est seulement le point de vue de l'observateur ou de l'observatrice sociale, si vous préférez. Et je me situe et je ne pense pas après qu'il y ait une nature des femmes qui leur permettrait en temps de crise sanitaire de mieux gouverner que les hommes. Certainement pas.
Alors, je voudrais vous soumettre un autre petit événement, celui-là, de la pandémie, mais j'aimerais que vous le commentiez l'une et l'autre. Le Parisien, il y a quelques semaines, a demandé à Axel Kahn, Jean Clouzel, Yasha Munk et Thierry Breton de présenter leurs hypothèses pour le monde d'après. Les tribunes sont parues, elles n'ont pas été lues, semble-t-il, mais elles ont fait scandale. 4 mâles blancs. Visiblement, la parité n'était pas respectée, et le Parisien a présenté ses excuses. Alors, comment lisez-vous cet événement? La réaction des lecteurs, la réaction du journal, vous paraissent-elles justifiées? Tout cela témoigne-t-il d'un souci nécessaire de la présence des femmes en tant que telles dans l'espace public? Claude Habib.
Écoutez, moi, ça me choque pas. Je vois cette exigence de parité un peu partout. Quand on fait un jury de thèse à la fac, on dit, est-ce qu'on a mis des femmes? Donc, ça devient vraiment un réflexe, je dirais, identitaire de l'Occident, de faire régner partout cette mixité. Et quand on voit un endroit non mixte, comme la place Tahrir, pendant les événements en Égypte, on remarque tout de suite le moment où il y a que des hommes place Tahrir. Et ça signale que c'est autre chose que nous. Nous sommes les sociétés de la mixité. Donc, quand elle vient à manquer, alors évidemment, sur 4 personnes, c'est pas absolument probant, c'est plus quand c'est des grands nombres, mais que cette vigilance ait fait entrer des jeunes journalistes. Eugénie Bastier confiait finalement son sexe l'a aidée, que c'est en tant que femme qu'elle a été recrutée ou qu'elle a eu des opportunités. Moi aussi, certainement, il y a des moments où il manque une femme, alors on fait appel à moi. Donc, comme j'en profite largement, je ne vais pas vous dire c'est une absurdité.
Bon. Alors, je vais vous faire une objection. j'ai le souci, moi aussi, de la mixité dans mon émission Réplique. Mais quand là, à l'émission sur le féminisme, évidemment, j'ai invité deux femmes. Je n'allais pas faire autre chose. Mais en général...
Vous auriez pu inviter le pauvre Jablonka, qui se fait taper oui. dessus par toutes les féministes, parce que oui. il ose parler de
c'est
leur
vrai.
Précaré.
C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais j'ai préféré vous choisir l'une et l'autre. Mais surtout, de manière générale, quand j'invite des femmes, c'est en tant qu'individu. C'est-à-dire, et jamais en tant que, qu'échantillon ou que spécimen. Et je crois que beaucoup de femmes sont hostiles à cette parité automatique, précisément
oui,
parce qu'elles se sentent humiliées. Et j'ajoute un dernier
c'était
exemple.
C'était la position d'Elisabeth Badinter au moment où cette parité
absolument.
Est arrivée. Elle disait c'est humiliant pour les femmes d'être à l'Assemblée nationale parce qu'elles ont un utérus, évidemment, bien sûr.
Alors,
et en même temps, nous sommes habitués maintenant à avoir une Assemblée nationale où les femmes sont également présentes et c'est un soulagement. Enfin,
oui, c'est un soulagement, mais je vous citerai la matinale de France Inter. L'autre jour, Antoine Compagnon était invité pour parler de son livre « Un été avec Pascal ». Et donc, il parlait, il disait, par exemple, que en France, la littérature allait par couple. Le grand écrivain anglais, c'est Shakespeare. Le grand écrivain espagnol, c'est Cervantes. Le grand écrivain italien, c'est Dante. Et en France, ça marche pas comme ça. En France, c'est Corneille Racine, c'est Voltaire et Rousseau. Ça va jusqu'à Sartre et Camus. Et c'était, bien sûr, Montaigne et Pascal. Et voilà, il fait un développement. Et une auditrice intervient et elle dit « Je suis scandalisée par ce que j'entends.
Oui.
Je suis scandalisée par ce que j'entends.
Oui.
C'est-à-dire, il n'y a pas de femmes dans votre discours, dans vos références. Et c'est comme si les femmes ne participaient pas à la culture. » Et le pauvre compagnon, au lieu de répondre justement comme j'ai essayé de le faire sur les individus, et dit « Non, mais regardez, c'est pas vrai. Je viens de parler de l'importance de la sœur de Pascal, Jacqueline, dans la vie de Pascal. » Donc vous voyez bien que cette parité quand même crée un monde un peu étrange où la culture même peut être en péril. Fabienne Brugère.
Oui, je crois que sur la parité, j'ai la position qui est celle de Geneviève Fraisse, qui avait été exprimée au moment des débats sur la parité, qui consistait à dire « la parité, ça ne tient pas d'un point de vue théorique, mais en revanche, ça a une utilité. » Parce qu'elle permet de faire que les femmes soient présentes dans des sphères de pouvoir où elles étaient précédemment absentes.
Bon,
moi, j'aurais pas répondu Jacqueline pour Pascal. J'aurais répondu Duras et Sarraute, Georges Sand et Marie d'Agou,
oui.
Germaine de Staël et Isabelle de Charrière, Madame de Lafayette et Madame de Sévigné. C'est-à-dire que on trouve aussi des femmes dans la culture française. On peut aussi faire des couples qui sont même pas trop trafiqués, qui correspondent à des amitiés ou à des positions adverses, comme Duras et Sarraute, qui dans l'écriture ont vraiment des entrées opposées et conflictuelles. Donc c'est possible de répondre qu'elles existent aussi et elles peuvent aussi marcher en couple. Je pense que c'était pas tout à fait opportun de parler de Jacqueline.
D'accord, voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci pour cette précision. Alors j'en viens à une autre question que je tire celle-là, non de l'événement que nous venons de vivre, mais Fabienne Brugère, de votre livre. Vous parlez à plusieurs reprises de la domination masculine. Alors je vous demanderai très directement, diriez-vous aujourd'hui que la domination masculine est un phénomène global, que c'est un phénomène universel? Fabienne Brugère.
Le point de départ de mon livre était de dire, voyons, si on essaie de regarder la situation des femmes mondialement, de loin, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on se rend compte que dans de nombreux pays, les femmes sont sous domination masculine. Je veux dire par là que de nombreuses sociétés sont organisées selon ce que Françoise Héritier nommait une valence différentielle des sexes, c'est-à-dire un masculin fort et un féminin faible. Et qu'en ce sens, les femmes, très largement, dans de nombreux pays, sont empêchées d'avoir les mêmes destins que les hommes, d'avoir les mêmes formes de liberté. Et voilà ce que j'entends par,
oui, mais
par
Fabienne
domination
Brugère,
masculine.
Fabienne Brugère, je vais tout de suite donner la parole à Claude Habib, mais il me semble qu'il y a dans votre livre une sorte de contradiction, parce que vous dites cette domination masculine est un phénomène général, un phénomène mondial, et tous les exemples que vous donnez viennent d'autres civilisations que la nôtre. Vous parlez des femmes manquantes, c'est-à-dire des femmes que l'on oui. décide de ne pas faire naître quand on peut avorter. Et ça, c'est la Chine et l'Inde. Vous parlez des femmes misérables, c'est-à-dire des femmes qui sont condamnées au mariage forcé, qui sont parfois mariées à l'âge de 8 ou 10 ans. Et c'est le Pakistan et plus généralement une grande partie du monde arabo-musulman. Mais ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas le nôtre du tout. Et on a l'impression, oui. là, si vous voulez, on voit au contraire une sorte de, non pas de clash des civilisations, mais de fossé des civilisations, dont il me semble que vous ne tenez pas tout à fait compte. Fabienne Brugère.
Je suis partie de l'idée qu'il y avait une blessure fondamentale de toutes les femmes à l'égard des femmes les plus opprimées. Ça, c'est le point de départ. Et donc, en ce sens-là, l'Inde, la Chine, le Pakistan sont forcément des civilisations où la place des femmes est particulièrement difficile. Et cela affecte tous les destins de toutes les femmes dans le monde. C'est ça que je voulais montrer. Mais par ailleurs, je montre bien qu'il y a aussi des formes de domination masculine dans nos sociétés. Quand je reprends certains exemples concernant même ma propre vie sur les remarques que l'on peut se prendre constamment en tant que femme dès que l'on essaie de mener une carrière, je veux dire, les choses ne sont jamais faciles. Donc je reprends des exemples comme celui-là. À un moment, je reprends aussi quand même la question justement des violences conjugales qui concernent bien évidemment nos sociétés, la question des féminicides. On peut dire peut-être que précisément les féminicides, c'est bien la manifestation d'une certaine universalité de la domination masculine, puisque les féminicides précisément existent également en France.
Alors très bien, Claude Habib.
Je suis extrêmement gênée par le fait de faire des féminicides qui sont des crimes abominables, comme l'infanticide aussi est un crime abominable. Enfin, c'est vraiment la faiblesse enfermée avec le bourreau, la preuve d'un système de domination dans nos pays, parce qu'ils sont unanimement condamnés. J'avais le même problème dans les années 80 quand j'étais militante féministe avec ce slogan « Les violeurs sont les milices du patriarcat ». C'est-à-dire la peur que les violeurs inspirent aux femmes profite finalement à tous les hommes, parce que comme ça les femmes sont intimidées, ils en font ce qu'ils veulent. Donc cette idée, il y a un système patriarcal qui profite de ces crimes et qui est en accord fondamental avec ces crimes, je crois que c'est simplement faux. Je pense que la société fait tout ce qu'elle peut, elle pourrait faire encore mieux, mais pour éviter le viol et les féminicides qui sont des crimes. Et donc en faire la preuve d'un système de domination, je ne crois pas. Moi, dépassé ce sentiment. J'ai été d'accord avec la formule de Evelyne Sullerot, le féminisme est devenu un conformisme, quand j'ai appris qu'en Californie, sur une étude des héritages, on a voulu voir si les hommes étaient favorisés. Vous savez, des dispositifs comme la quotité disponible en France, on peut favoriser un enfant plutôt qu'un autre. Donc on s'attendait à voir que les parents, comme d'habitude, préfèrent les fils. Et on s'est aperçu que c'était pas vrai, qu'il y avait une parfaite égalité, que les parents aimaient autant leurs filles que leurs garçons, en tout cas ils leur donnaient autant aux uns qu'aux autres. Donc cette idée qu'il y a une persécution des femmes, bon, c'est vrai, de temps en temps on se fait une bosse contre le plafond de verre, mais enfin, en gros, quand on regarde le destin des femmes au XXe et au XXIe siècle en Europe, il est glorieux. Alors, vous savez, c'est dans le commerce, il y a le stock et il y a le trend. Le stock, peut-être on a moins, mais en tout cas, on est sur une tendance ascendante évidente. Les hommes pâtissent des places que nous prenons, il faut quand même le voir.
Alors, là-dessus, j'ajouterais quelque chose avant que vous ne répondiez, Fabienne Brugère, parce que vous parlez du XXe siècle comme le siècle de la révolution féministe. Et à la suite de Claude Abîme, j'ai envie de vous demander, est-ce que cette révolution n'a pas déjà eu lieu? Parce que il y a 50 ans encore, les femmes ne s'appartenaient pas. Rares étaient celles qui osaient faire cavalier seule. Comme l'écrit Alice Fernet dans son roman magnifique Les Bourgeois, leur vie était dédiée à fabriquer des vies. Et nous avons rompu avec cette histoire. Les femmes ont désormais le choix d'épanouir en elles autre chose que la capacité de procréer. Elles ont acquis la maîtrise de la filiation. Elles accèdent à tous les métiers. Elles divorcent comme elles veulent, elles quand elles veulent. Et le chef d'entreprise qui s'aviserait de pratiquer une discrimination salariale est passible du tribunal correctionnel. À cela s'ajoute le fait que le patronyme n'est plus obligatoire, que la procréation médicalement assistée pour toutes est en passe d'institutionnaliser la filiation sans père, alors quand la disparition de l'homme devient un droit de la femme, est-il encore sérieux de parler d'ordre patriarcal? Et je vous pose encore plus précisément la question. Vous dites dans votre livre, Fabienne Brugère, que votre perspective est l'émancipation et la libération, mais c'est comme si vous ne teniez pas compte des victoires du mouvement de libération des femmes qui sont quand même tout à fait impressionnantes, Fabienne Brugère.
Alors, je crois que le mouvement de libération des femmes, j'en tiens compte dans la mesure où je sais bien tout ce qui a pu s'accomplir dans un certain nombre de pays durant le XXe siècle. C'est évident que cette révolution des femmes a commencé, c'est évident qu'il y a un certain nombre d'acquis, mais je reviens toujours à la même perspective, c'est-à-dire si on prend une vision mondiale, les choses ne sont pas si simples. Les choses ne sont pas si simples parce que l'Inde, parce que la Chine, parce que aussi l'Iran et d'autres pays. Et en ce qui concerne, si vous voulez, les pays européens, je crois que, en fait, il faut toujours revenir, je tiens beaucoup à un terme, c'est le terme de situation. Et il y a des situations des femmes. Mais je dis là-dessus que la révolution féministe n'est pas achevée. Non, qu'elle n'est pas achevée aussi parce que tout simplement les cultures résistent. Si on prend un pays comme l'Inde et si on revient là-dessus aux travaux d'Amartya Sen et de Martha Nussbaum, il est quand même très intéressant d'un point de vue féministe de repartir de cette contradiction entre une constitution indienne qui pose l'égalité des hommes et des femmes et puis des situations culturelles qui font que précisément les destins des femmes en Inde sont quand même largement tragiques et que leur liberté d'accomplissement est particulièrement compliquée.
Oui, mais
donc
les sociétés résistent à la modernité. Nous sommes d'accord. L'Inde est une société de caste et dans cette société de caste, bon, ce calcul d'Amartya Sen que vous reprenez, c'est 100 millions de femmes manquantes, ça vient du fait donc des avortements sélectifs de fœtus féminins, et je trouve que vous avez raison de développer, même contre Alain Finkielkraut, ce sentiment spontané de solidarité avec ces situations insupportables, l'excision, l'élimination des fœtus féminins, tout ça est douloureux pour nous, et je comprends très bien, j'approuve, je me mets en écho moi-même, le sentiment de solidarité, il est là. N'empêche que, l'exemple californien que je donnais, c'est le contraire. C'est-à-dire, il y a une affection pour le féminin égale à celle pour le masculin. Et tous les stéréotypes, disons, les femmes sont moins intelligentes, elles ont moins de neurones, leur cerveau est plus petit, elles sont incapables de conduire. Enfin, moi j'ai entendu la femme au volant, la mort au tournant. Alors maintenant, on est dans des sociétés où on a des statistiques, on s'aperçoit que les femmes font moins d'accidents de voiture que les hommes, et que tout ça, c'était d'horribles préjugés masculins. Mais ça va de soi que dans notre société, c'est réglé. Maintenant, Alain, je voudrais quand même vous dire que si on se coupe de ce sentiment spontané de solidarité, on va vivre notre situation comme un privilège occidental, et ça, c'est pas une bonne chose.
C'est pas une bonne chose. Je pense que vous avez tout à fait raison, mais cette solidarité, nous, les hommes, la partagent avec les femmes. L'excision est une chose horrible. Simplement, il faut tenir compte de la discordance des civilisations, de ce que Ernst Bloch appelait la non-contemporanéité des contemporains. J'ai sous les yeux un livre de Yann Bourouma et Avishai Margalit, L'Occidentalisme, une brève histoire de la guerre contre l'Occident, et il cite une missionnaire américaine, Ruth Woodsmall. Voici ce qu'elle s'écrivait, en 1936. Lorsqu'un oriental se rend dans un pays occidental, ou lorsqu'un occidental se rend dans un pays oriental, ils sont extrêmement conscients qu'ils franchissent une barrière sociale plus tangible qu'une frontière géographique, ou qu'une différence de langue, de nationalité ou de race. Les organisations sociales de l'Occident et de l'Orient reposent sur des principes radicalement opposés. La différence primordiale concerne la place réservée aux femmes. Et les choses, malheureusement, se sont aggravées, puisque en Europe, la révolution féministe a eu lieu, et puis puisqu'on assiste à une réislamisation d'une partie de l'islam. Donc, une fois ce constat fait, on peut pas non plus effectivement se replier sur son privilège, mais on ne peut pas, si vous voulez, universaliser une réalité de stigmatiser une autre civilisation que la nôtre.
J'ai pas du tout l'intention de renier ce que je dois à la modernité et d'abord à la science, parce que s'il n'y avait pas eu la contraception, une contraception fiable, non seulement fiable, mais appartenant aux femmes, parce que avant, bien sûr, au 19e siècle, il y a des techniques contraceptives, mais il faut compter qu'un amant se retirera à temps. Enfin, il faut vraiment avoir confiance dans l'homme avec qui on couche. Alors que là, savoir que on peut ne pas être victime des suites d'un rapport sexuel, tout ça, c'est merveilleux. La pilule du lendemain. Bon, j'ai évidemment à l'égard de la science et à l'égard de l'égalité démocratique, une dette que je reconnais. Donc, bien sûr que nous avons profité de cela.
Fabienne Brugère.
Moi, ce que je dirais là-dessus, c'est que par ailleurs, un grand nombre de problèmes d'égalité persistent dans des sociétés comme la société française et d'autres. Certes, on a gagné des formes de liberté, et en particulier sur le terrain de la contraception, sur le terrain de l'avortement. Mais il me semble qu'en termes d'égalité réelle, on est encore loin du compte, ne serait-ce que lorsque l'on prend en charge l'épineuse question de l'égalité salariale.
Oui, mais l'épineuse question d'égalité salariale dans la fonction publique, elle est évidemment assurée. Et si jamais, je l'ai dit tout à l'heure, un chef d'entreprise s'avise de payer moins une femme qu'un homme parce que c'est une femme, celle-ci peut recourir au défenseur des droits, aller au prud'homme et aller au tribunal correctionnel. Alors quelquefois, il y a des différences de carrière qui font que des femmes s'arrêtent de travailler, qui font que des femmes ne choisissent pas toujours d'ailleurs les mêmes carrières que les hommes. Donc ça crée en effet aussi des différences salariales. Mais l'égalité salariale est assurée dans la fonction publique et défendue mordicus par le pouvoir judiciaire en France. Ça, vous ne pouvez pas le nier.
Ce n'est pas si simple comme je le disais tout à l'heure entre les lois et puis les pratiques, il y a toujours justement un écart et il est évident qu'il y a un travail à faire dans la société pour que les femmes osent justement occuper certaines positions.
Alors je voudrais répondre sur ce point. Il y a l'argument de ce psychologue Jordan Peterson, qui dit si les femmes sont moins payées, ce qui est un fait, c'est pas parce qu'elles sont des femmes avec un utérus, c'est parce qu'elles sont plus agréable. Il y a une gentillesse plus grande, et si vous prenez des individus qui ont ce trait de l'agreeableness, ils sont payés moins, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes, parce qu'il faut revendiquer si on... Bon, alors, il y a cette possibilité, j'en sais rien. Le fait est, Alain, qu'il y a 10% de moins de salaire, 10%, c'est quelque chose, à poste égal.
Elle
pourrait porter plainte, oui, mais de fait...
Mais elles le font, et surtout, si vous voulez, au commencement d'une carrière, aucun entrepreneur ne peut s'aviser de payer moins la femme que l'homme.
Ce que je veux dire, c'est que 10% de moins... C'est quelque chose, sur ma feuille de paie, je vois ce que ça représente, mais il faut le mettre en balance avec l'ensemble de la vie d'une femme, y compris le fait que nous vivons 5 ans de plus. Alors, si je me mets dans une position à la Rawls, là, si on se met en position originaire, est-ce que je veux d'une vie où je gagne 10% de moins, mais je vis 5 ans de plus? Ça se discute. Donc je trouve le sort des femmes en Occident, il n'est pas parfaitement égal. Mais je ne sais pas comment on pourrait l'égaliser parfaitement, parce que les hommes n'ont pas le même rapport aux passions, n'ont pas le même rapport à l'enfantement, et meurent plus tôt. Donc voilà, je suis pas, j'ai pas un sentiment de persécution complet. Même si je suis tout à fait d'accord avec Fabienne Brugère, il faut lutter pour obtenir une égalité salariale.
Ce que j'aimerais ajouter juste là-dessus, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui renvoie au travail que vraiment sur la question du prendre soin. C'est que je pense qu'il y a bien une difficulté propre aux femmes, enfin généralement propre aux femmes, c'est que les femmes ont largement dans nos sociétés la charge des enfants. On sait très bien que dans la plupart des situations, pour donner un exemple, lorsqu'un enfant est malade et que les deux parents travaillent, c'est beaucoup plus la femme que l'homme qui prend sa journée. On pourrait bien sûr citer bien d'autres exemples, et je crois que la grande difficulté des femmes aujourd'hui, et ça touche beaucoup plus les femmes que les hommes, c'est la coexistence entre leur vie professionnelle et leur vie de famille. Et que là, alors ça ne concerne plus strictement la question d'égalité salariale, mais ça en revanche, ça concerne la possibilité d'une carrière. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus difficile de faire carrière si l'on est la personne qui a en charge finalement la vie quotidienne de la famille. Et c'est peut-être pas un hasard de ce point de vue-là si la chancelière allemande est une femme sans enfant. Je crois qu'il y a quand même une difficulté des femmes avec enfants.
C'est spécifique
enfants
à l'Allemagne. Spécifique à l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas de crèche. L'Allemagne est beaucoup moins outillée que nous pour le soin de la petite enfance. Même si vous avez raison, bien sûr que c'est au moment où on a des enfants que les carrières divergent.
Les carrières divergent. Et les différences salariales se font jour. Oui,
vous voyez, je parlais tout à l'heure du fait que les hommes mouraient beaucoup plus en se suicidant que les femmes, et souvent ce chiffre terrible est mis en relation avec le fait que les femmes ont des enfants, et que peut-être une des choses qui les empêche de se tuer, c'est que on fait pas ça à ses petits, on se tue pas quand on a des enfants. Donc les enfants, c'est une charge pour la carrière, mais peut-être que c'est un avantage d'une autre façon. Enfin, c'est difficile de regarder le domaine passionnel de faire du domaine passionnel uniquement un handicap.
Oui, et puis là, on est aux frontières de la nature et de la culture. Alors, il est vrai que la notion de genre nous aide pour certains à nous affranchir de la différence des sexes, mais le rapport des femmes aux enfants et des hommes aux enfants n'est pas le même, puisque c'est la femme qui est enceinte, c'est la femme qui accouche. Donc, c'est vrai dans toutes les sociétés, cela le reste dans la nôtre. Est-ce qu'il faut vraiment que l'homme et la femme face aux enfants soient interchangeables? On peut se poser la question, mais j'aurais aussi... Pardon.
Non, mais je pense qu'il ne s'agit pas de penser les choses en termes d'interchangeabilité. En revanche, je crois qu'il y a bien quelque chose de spécifique et qui concerne les femmes, c'est cette possibilité effectivement d'enfanter, qu'il faut la penser, que quelqu'un comme Françoise Héritier l'a justement très bien analysé, et qu'en même temps, ce que porte la possibilité d'enfanter, c'est toujours une imbrication entre la nature et la culture, et qu'en fait, il est très difficile de démêler les deux. Donc, ce que j'aimerais juste dire sur ce point, pour ma part, c'est que ça tient peut-être à ma filiation, qui est une filiation liée à la philosophie anglaise et écossaise du XVIIIe siècle. Pour moi, la nature et la culture sont toujours de toute façon totalement imbriquées, et il est très difficile de démêler ce qui est réellement naturel et ce qui est réellement culturel.
Oui, c'est difficile à démêler, mais je voudrais vous poser une dernière question, très brutalement, parce que le temps nous est compté. Selon vous, est-il plus difficile aujourd'hui, je parle de nos sociétés cette fois-ci, est-il plus difficile d'être une femme, une jeune femme, que d'être un homme? Claude Habib.
Répondre absolument à ce qui est une multiplicité, évidemment, de positions dans l'âge et le genre, c'est impossible. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a constitution, et l'Internet y est pour quelque chose... jeunes gens qui se sentent maltraités par les femmes et qui deviennent fous, enfin les incels, c'est le comble de la misogynie. Là, c'est vraiment des hommes qui vont tirer sur des femmes au hasard parce qu'ils détestent les femmes qui ne les ont pas regardées, qui ne leur ont pas accordé leur faveur. Donc c'est célibataire involontaire, c'est un mouvement terrifiant, nouveau, et qui prouve qu'il y a une souffrance masculine, mais une souffrance, une violence, une haine nouvelle. Maintenant, je crois, je vous l'ai déjà dit Alain, que pour toutes les jeunes femmes, enfin pour toutes les fillettes qui deviennent pubères, il se passe quelque chose de violent, qui est que la testostérone leur tombe dessus, que soudain elles se font palper dans le métro, siffler, et que ça alimente la résurgence du féminisme, même si Fabienne Brugère disait des problèmes persistent, mais enfin ces problèmes sont quand même des rémanences. On voit bien que la tendance est la victoire de l'égalité. Pourtant, le féminisme se réactive génération après génération parce que c'est odieux, je crois, d'être femme entre 14 et 24 ans. La rue est impossible, on ne peut pas marcher, on est importuné. Et
bon, il y en a quelques... Vous diriez aujourd'hui qu'en France, la rue est impossible aux jeunes femmes?
Mais je le pense, Alain. Regardez, il y a un blog d'une jeune femme qui s'appelle Noah Amsterdam et qui se photographie avec, elle fait des selfies avec ses harceleurs, et sur un mois, vous voyez tous ces visages ravis d'hommes qui lui ont dit « tu es chaudasse, tu es etc. » et auxquels elle propose un selfie. Et vous voyez ce que c'est que d'être une jolie jeune étudiante à Amsterdam dans la rue. Vous ne comprenez pas ce que c'est que cette expérience-là.
Je ne crois pas que je ne la comprenne pas. Je pense que, simplement, avant de donner la parole pour finir à Fabienne Brugère, je me promène dans les rues le matin, l'après-midi et le soir, même tard, je vois des femmes, je vois des jeunes filles, je vois de l'insouciance, je vois de l'indifférence, je vois de l'arrogance, je ne vois pas de la peur. Et je me promène beaucoup. Donc voilà pourquoi je suis
parce
un peu
étonné.
Parce
que mieux vaut faire au vic pitié et que notre peur, on ne la montre pas.
Alors, et je voudrais aussi citer Michel Houellebecq, l'extension du domaine de la lutte. C'est vraiment pas facile d'être un homme aussi dans la vie sociale, dans la rue ou dans les cafés, quand on est laid. parce que c'est le destin d'un des personnages les plus déchirants de la littérature contemporaine, Raphaël Tisserand. Il est puceau, il a 28 ans, il est très laid. Et donc, il se ramasse sans cesse des vestes, il meurt dans un accident de voiture, qui est en fait un suicide. Et c'est aussi ça, la condition masculine. C'est-à-dire que dans ce que sont les rapports de séduction, etc., c'est très difficile des deux côtés, et je pense que ça ne doit pas être oublié. Mais Fabienne Brugère, à vous la conclusion. Oui.
Dans la séduction, je pense que si on prend cette question de la séduction, c'est tout autant difficile d'être un homme que d'être une femme, d'être un jeune homme qu'une jeune femme, parce que la séduction, c'est une affaire aussi de normes, hein, de normes qui permettent de plaire, et il y a des normes masculines et des normes féminines. Donc, je pense qu'il y a de la difficulté, quoi qu'il en soit. Ensuite, vaut-il mieux être un jeune homme ou une jeune femme? J'avoue que je ne me risquerai pas à répondre à cette question. Je crois qu'aujourd'hui, dans tous les cas de figure, il est très difficile d'être pauvre. Et je crois qu'il est très difficile, du coup, d'être une jeune femme pauvre, parce que on conjugue justement beaucoup de handicaps, mais il est difficile aussi d'être un jeune homme pauvre. Donc, je répondrai finalement en guise de conclusion par un idéal, hein, c'est-à-dire que tout ira bien le jour où les femmes seront des individus comme les autres, et le jour où enfin nous serons tous des individus. Et donc, je ferai une défense finalement de la notion d'individu. C'est-à-dire du fait de pouvoir s'accomplir avec le moins d'empêchements possible.
Très bien.
Et je crois qu'il y a encore un certain nombre d'empêchements pour les femmes, en particulier dans une sphère qui est spécifiquement masculine, qui est celle du pouvoir. Et je crois que là-dessus, dans le domaine du pouvoir, c'est quand même très difficile pour les femmes.
Bon, la discussion s'interrompt parce que il y aurait sans doute des réponses à vous faire, mais je vous remercie infiniment toutes les deux. Fabienne Brugère, je rappelle que vous venez d'écrire « On n'en est pas femme, on le devient ». Ce livre est publié aux éditions Stock. Merci beaucoup aussi Claude Habib. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Lire le premier homme ». Mon invité sera Raphaël Enthoven. Cette émission a été réalisée avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard, François Connac, François Rivalan, Inès De Bruyne. Merci à Jean-Marc Clauss pour la coordination. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.